I put a spell on you.
Votre attention à tous. Aussitôt que le sas sera verrouillé, silence. Jacques et Yuna, si quelque chose cloche, prévenez-moi par télépathie.
I want you to get up right now and go to the window, open it and stick your head out and yell, I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore.
Comme ça, Money, tu penses que ton stuff c'est la grosse affaire?
Laisse-moi te dire une chose, qu'avec ce stuff-là, les petits dits, ils sont mieux de prendre leur trou.
C'est cet inconscient-là qui est le plus dangereux.
Nice shooting, sir. What's your name?
Murphy.
Je suis un fort! Je suis inordure! Je suis pourri! Je suis lépreux!
I put a spell on you. Because you're mad.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission du 7e Antiquaire, votre émission de cinéma aux proportions cosmiques. Mon nom est Jean-Michel Bertillon et je constate que ça fait longtemps que j'ai pas dit un gros merci public à Julien Charbonneau pour ce jingle qui réussit à partir l'émission du bon pied. Merci encore Julien, t'es un génie inavoué en fait, tout le monde éventuellement se pliera à ce vaste hôtel cosmique qui est l'amour de ton talent inné et acquis. Tu es extraordinaire et sache que tu es aimé. Aujourd'hui, une petite émission, c'est une émission d'entre deux. Je sais que la semaine dernière, suite à qu'est-ce qu'on a dit sur Christmas Evil, j'étais comme, ah, je vais peut-être prendre un break, ça va peut-être être difficile de parler de tous les westerns australiens depuis 1906. Mais bon, en faisant ma recherche, puis du moins c'était quelque chose qui était un peu dans le back-end, je me disais une fois de temps en temps, peut-être pas parler nécessairement d'un film et de tout ce que ça représente historiquement, mais parler juste d'une affaire, un concept, une histoire que l'on peut tirer comme un fil et voir où ça nous mènera, que ce soit jusqu'à Ariane ou que ce soit jusqu'à Umberto Eco. On sait pas. On va se rendre d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, ce fil, cette histoire, c'est l'article 7 du livre des droits créatifs du Directors Guild of America. Ah, pourquoi tu parles de ça? En fait, c'est qu'est-ce qu'on appelle communément le Eastwood Rule, donc la règle de Eastwood, qui est une règle qui a été édictée par le Directors Guild of America, qui interdit à un acteur ou à un producteur de licencier. En fait, ça interdit à un acteur ou à un producteur de renvoyer un réalisateur et pour les raisons de ensuite prendre sa place et devenir le réalisateur lui-même. Vous avez bien entendu, la règle s'appelle the Eastwood Rule. Parce que la personne qui a provoqué la création de cette règle-là n'est nul autre que Blondie, the man with no name, Clint Eastwood lui-même. C'est effectivement comment est-ce que ça a commencé dans les années 70. En fait, ça a commencé précisément en 1976 avec le film Outlaw Josie Wales, que vous connaissez, qui est un film sur la guerre civile, en fait, la guerre de sécession, pardonnez-moi, où Eastwood a décidé de signer son premier film anti-guerre. Mais bon, dans les annales, dans les petites histoires derrière ce film-là, on apprend que Outlaw Josie Wales était initialement réalisé par Philip Kaufman, que vous connaissez très bien. Philip Kaufman, c'est le réalisateur de Invasion of the Body Snatchers, il a fait The Right Stuff, il a fait plein d'affaires en 40, il a co-scénarisé Raiders of the Lost Ark, le premier Indiana Jones. Et pendant le tournage de Outlaw Josie Wales, les deux se tapaient de la tête comme deux boucs enragés. En fait, c'était davantage, ou du moins initialement, des combats artistiques. Philip Kaufman et Clint Eastwood ne s'entendaient pas sur certaines orientations par rapport au film. Kaufman était vraiment fort, en fait, qu'est-ce qu'on a entendu sur les archives des plateaux, c'est que Kaufman y allait vraiment pour l'authenticité de l'époque. Donc, il crachait, en fait, toutes les terminaisons, toutes les utilisations de termes pour parler de cracher le tabac étaient beaucoup plus authentiques, étaient beaucoup plus historiques, et ça venait un peu contrebalancer l'espèce d'image cool guy que Clint Eastwood s'était construit en Italie, dans notamment les films de Sergio Leone. Donc cette authenticité historique éreintait un peu le vernis du Man with No Name, et là, bon, Clint Eastwood était comme, ben non... T'es la valeur historique, il faut y aller, un peu prendre le bord, il faut qu'on soit cool, il faut que moi je sois cool. Et évidemment, Philip Kaufman, ben, étant quelqu'un qui est beaucoup plus orienté par rapport aux détails, par rapport à la véracité, ça le dérangeait, ils se sont pris là-dessus. C'est une des raisons pourquoi est-ce qu'il y a eu conflit sur Outlaw Josey Wales. L'autre, et en fait, celle que l'on considère historiquement comme plus importante, et c'est le filon que je vais poursuivre aujourd'hui, c'est la présence de Sandra Locke. En fait, Sandra Locke, à l'époque, était une actrice assez connue, elle avait quand même fait quelques rôles, mais Eastwood insistait pour qu'elle fasse partie de la production, insistait auprès de Philip Kaufman. Philip Kaufman n'était pas 100% certain et tout, mais Eastwood tenait mordicus à ce qu'elle y soit, vous avez bien compris, parce qu'ils étaient romantiquement liés à cette époque-là. Mais bon, en se battant, en fait, Eastwood en se battant à continuellement, si on peut dire, j'allais dire à perpétuité, mais c'est pas comme si c'était un combat homérique qui n'avait jamais terminé, là. Mais il s'est ostiné très longtemps avec Kaufman, jusqu'à ce que Kaufman sacre son camp, fait claque la porte, décide de donner sa démission du film, et Eastwood a un peu pris l'opportunité pour réaliser, pour prendre le poste de réalisateur du film et pouvoir exécuter sa vision artistique du récit. Ici, le Directors Guild a comme un petit problème moral, philosophique, éthique et aussi légal. Parce que Kaufman, non seulement est-ce qu'il avait fait toute la pré-prod, il a aussi co-scénarisé le film avec Sonia Chernus et Michael Cimino de Heaven's Gate. Donc, on se retrouve un peu à balancer vers Philip Kaufman dans la raison, en fait c'est lui qui a travaillé autant dans le film, il devrait être crédité comme réalisateur. De l'autre côté, Eastwood avait investi une partie de son propre argent pour acheter les droits d'adaptation de ce roman-là. Donc la propriété intellectuelle lui revenait pas entièrement, mais lui revenait en partie. Les deux parties ici étaient un peu pognées, et bon, il y a eu c'est une impossibilité d'avancement. Kaufman part, Eastwood prend la place. Là, c'est compliqué parce que le Directors Guild of America a tenté de ramener Kaufman au siège de réalisateur. Eastwood n'a absolument rien fait. Et la seule... Ben, en fait, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont laissé Eastwood être nommé comme réalisateur pour le film. Il apparaît dans le générique. Philip Kaufman y apparaît, je crois, comme co-scénariste seulement. Et tout d'un coup, le DJ se retrouve un peu avec une ambiguïté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que ça s'est arrivé? Si les gens se mettent à entendre ça, à chaque fois qu'un acteur n'est pas content de la direction que le réalisateur prend pour accomplir un œuvre, ben, il peut être invivable, à la Marlon Brando évidemment, jusqu'à ce que le réalisateur quitte et ensuite prendre sa place. C'est un grand loophole, ça devient très dangereux dans l'industrie du cinéma que de donner autant de droits à cet acteur-là qui voudrait peut-être prendre en main ce projet-là. Ben là, on a décidé de, comme je vous disais, écrire, ratifier l'article 7 du livre des droits créatifs, et on a établi que, advenant qu'il y a advenant qu'on va contre, à l'encontre de la règle Eastwood, ben ça vient avec, évidemment, des sanctions, des amendes incroyables sur la production et sur certains membres individuels de l'équipe. Et même que le Directors Guild s'octroie le droit de révoquer des adhésions à leur guild de réalisateurs si jamais ça arrive. Donc, le Directors Guild, en créant la Eastwood Rule, s'assure que Outlaw Josey Wales est à peu près le seul exemple dans leur histoire où ce genre de situation-là a pu arriver. De l'autre côté, ben ça c'est drôle, une fois que la règle s'est installée, il n'y a presque pas eu de problème, en fait, tout ça s'est replacé. Histoire de, évidemment, créer d'autres problèmes ailleurs, ça c'est la seconde partie de cette courte émission, le trouble avec Eastwood. Déjà qu'on se rend compte que c'est un peu un foutu de merde, mais ce foutage de merde-là, si je peux dire, ne représente pas toujours des avantages. En fait, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? On parle d'ici 1984 avec le film Tightrope, réalisé par Richard Tuggle. Ben, Richard Tuggle s'est retrouvé dans la même position que Philip Kaufman. Eastwood insistait sur le fait qu'il ne savait pas quoi faire, que sa vision était pas bonne, et ainsi de suite. Et Toggle est resté à la réalisation malgré l'acharnement de Clint Eastwood qui voulait potentiellement refaire cet événement-là, qui est l'événement de Outlaw Josie Wales, cette fois-ci avec le film Tightrope. Mais là, parce que la Eastwood Rule, elle était installée, il ne pouvait plus faire ça. Mais je suis convaincu qu'il a trouvé plein d'autres manières de se rendre désagréable. Le point intéressant. Ben, en fait, non, pas du tout. Le point qui devient, parce que déjà, la Eastwood Rule, elle est vraiment intéressante, mais le point qui devient, qui complexifie le tout, c'est un tierce personnage dans l'histoire que j'ai mentionné, c'est le personnage de Susan Locke. Susan Locke, elle, s'est retrouvée un peu dans, croisée entre les deux, s'est retrouvée un peu... comment est-ce que je peux dire? Hey, j'ai dit Susan, c'est Sandra, pardonnez-moi. C'est ça qui me faisait hésiter. Le personnage de Sandra Locke, ben, l'actrice, elle a été un peu la Hélène, dans le cas ici, si je reste dans mes métaphores homériques. Puis c'est le cas, en fait, de Sandra Locke qui m'intriguait, vraiment. Parce que je me rappelle de ce nom-là, quand je l'ai vu. C'est un visage qui m'apparaissait assez familière, mais que je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Puis là, je me suis rappelé, en faisant une petite recherche, qu'en 1971, c'est elle le personnage principal dans Willard, avec Bruce Davidson puis Ernest Borgnine. Willard qui a été refait durant les années 2000. C'est ici un peu que je suis tombé dans le trou du lapin de la recherche. Je me suis rendu jusqu'à la biographie qu'elle a publiée en 1997 qui s'appelle « The Good, the Bad and the Very Ugly » et « Hollywood Journey » où elle explique un peu qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie et comment est-ce qu'elle a été assez départ un peu impliquée dans l'émergence de cette règle-là, Eastwood, mais que cette femme-là, fondamentalement, ce n'est pas juste la règle Eastwood qui a abusé d'elle, c'est Clint Eastwood en général. Bon, il y a un grand débat, il tape encore, il tapera toujours. Doit-on respecter l'artiste ou l'art? Clint Eastwood a fait des affaires extraordinaires. Clint Eastwood en tant qu'artiste a fait des affaires extraordinaires. Clint Eastwood en tant qu'artiste a fait des affaires médiocres. Clint Eastwood en tant qu'humain a fait des affaires médiocres. C'est correct, nous sommes pluridimensionnel comme personne. Ça, je ne peux pas aller plus que... Je ne peux pas ajouter plus que ça à cette déclaration-là. Nous sommes pluridimensionnels comme personne. Et les artistes ne sont pas au-dessus de ça. C'est tout ce que je me permets de dire. Parce que qu'est-ce qui va suivre? Ben, si vous n'effectuez pas ce genre de tranchement très occamien, si vous voulez, par rapport aux personnes, ça va potentiellement vous faire détester Eastwood pour le restant de vos jours. Outre les « This is a chair » de ce monde. Donc, Sandra Locke, qu'est-ce qui s'est passé? Sandra Locke, dans les années 50, elle épouse Gordon Leigh Anderson. C'est quelqu'un qu'elle connaît depuis le secondaire. C'est un homme qui a la réputation d'être homosexuel. Ça n'a jamais été officialisé, ça n'a jamais été confirmé. Outre le fait que quand Sandra Locke parle de son mari, elle dit que cet homme-là n'était pas nécessairement un mari pour elle, mais plutôt comme une sœur. En fait, c'est plutôt une sœur pour moi. Notre relation équivaut essentiellement à celle d'une sœur et d'un frère. Et elle ajoute dans la biographie, elle dit « Ben, les temps changent, mais à cette époque-là, les hommes et les femmes n'habitaient pas ensemble s'ils n'étaient pas mariés. » Donc, c'est un peu le... C'est l'étonnant aboutissant de l'époque. Sandra Locke s'est retrouvée mariée avec cet homme-là. Elle avait une relation qui était, on devine, platonique. Elle ne ressentait pas de problème, en fait, elle ne ressentait pas de friction à entretenir cette relation-là avec cet homme. Et c'est tout en son honneur, c'est parfait. Mais elle avait aussi des amants on the side. Donc, elle a marié cet homme-là, mais elle a quand même fréquenté beaucoup, beaucoup de personnes, comme Clint Eastwood, vous l'aurez remarqué. Donc, entre 1975 et 1989, Sandra Locke et Clint Eastwood habitent ensemble. Ils sont rencontrés en 72 avec la préparation de Outlaw Josie Wales, mais ils ont habité ensemble à peu près l'espace de 15 ans. Dans la biographie de Sandra Locke, elle explique que vers la fin des années 70, donc directement pendant le croquant de la relation Eastwood-Locke, elle a eu à subir deux avortements. Et elle mentionne en fait que par rapport à ses avortements, elle ne regrette rien parce qu'elle, et je cite, « plaindrait n'importe quel enfant qui m'aurait comme mère ». Donc ça, c'est des trucs qu'elle a révélés à la presse dans les années, je pense en 89 ou quelque chose comme ça. Deuxième avortement, ben là, elle passe encore sous le bistouri, mais cette fois-ci pour une ligature des trompes. Dans son autobiographie, elle dit que c'est suite à la pression de Clint Eastwood qu'elle a suivi cette opération-là, cette procédure-là, parce que Eastwood disait que d'avoir des enfants, ça ne concordait pas avec leur style de vie à l'époque. Ben, si on fait un peu de calcul renversé, on se rend compte aussi que Eastwood, entre en 1986 et en 1988, il y a eu deux enfants. Scott, né en 86, que vous connaissez, Scott Eastwood, qui a joué dans Suicide Squad, qui a joué dans Fate of the Furious, qui a joué dans Snowden, et ainsi de suite. Et il y a eu une fille, Catherine, avec Jaslyn Reeves, qui est une agente de bord, une flight attendant. Donc, les trois dernières années de la relation entre Sandra et Clint Eastwood, Clint Eastwood s'assurait que Sandra pouvait pas avoir d'enfants en ayant des enfants avec quelqu'un d'autre. Évidemment, ça a créé des tensions dans le couple, ça a fait en sorte qu'il y ait un démantèlement de la relation de confiance amoureuse. Ils se sont séparés en 1989. Locke demande suite au divorce, elle demande une pension alimentaire, parce que Eastwood est de plus en plus insistant sur toutes sortes de trucs, mais bon, ça c'est du... En fait, tout ce qui est légal, tout ce qui est implication policière et tout, on n'en entend presque pas parler. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a changé, et ça c'est de son aveu, changé les serrures de leur maison, et elle a mis tous ses biens dans des entrepôts pour s'assurer qu'elle pouvait partir à n'importe quel moment. Je pense que c'est lui... Ouais, ok, non, je pense que c'est, pardonnez-moi, je me suis trompé. C'est Eastwood qui a changé les serrures et qui a un peu séquestré tous les biens de Sandra pendant que Sandra est en train de tourner un film. Donc, il y a eu, suite à cette rupture-là, une grande bataille légale, évidemment. Les parties, en fait, se sont entendues. Ça a été une espèce d'entente à l'amiable, mais qui consistait à une entente de la création d'une compagnie de développement ou de réalisation pour Sandra Locke. Donc, en fait, Warner Brothers, qui était extrêmement attaché à Eastwood, s'est entendu que la séparation pouvait se faire, pouvait s'opérer, et que eux autres, ils prenaient sur eux de créer une mini-compagnie de production qui ferait en sorte que Sandra Locke pouvait avoir une carrière en film. Mais bon, évidemment que ça s'est pas bien passé, parce que un peu plus tard, en fait... 1995, Locke revient à la charge. Cette fois-ci, elle doit poursuivre Warner Brothers en cours en disant que le traité paix, si on peut dire, ou cette compagnie de production-là qui servait à s'assurer que le divorce se faisait de façon polie, si on peut dire, ben c'était faux. Le studio a, au final, rejeté 30 projets qui ont été proposés par cette compagnie de production et qu'ils ont au final jamais utilisé Sandra Locke comme réalisatrice. Donc là encore, il y a eu une seconde poursuite judiciaire. Cette fois-ci, c'est encore Warner Brothers qui a gagné et le problème s'est un peu manifesté comme une façon très concrète de percevoir la présence du Boys Club, évidemment, dans Warner Brothers, mais aussi en disant que les acteurs ils peuvent essentiellement faire qu'est-ce qu'ils veulent parce que ils sont puissants aux yeux des studios et ils mobilisent énormément de ressources. Fait que c'est devenu extrêmement clair que Locke était prisonnière dans tout ça, suite même à la poursuite initiale à Eastwood et la seconde poursuite à Warner Brothers directement. En fait, la seconde poursuite à Warner Brothers, c'est une poursuite presque conspirationniste, en fait, où elle dit que Warner Brothers et Eastwood se sont arrangés ensemble pour créer un piège, pour créer une espèce de leurre, un mensonge qui ferait en sorte que Locke laisserait Eastwood tranquille, mais qu'il n'avait aucunement l'intention de créer une compagnie de production qui ferait que Sandra Locke pourrait être émancipée ou avoir sa propre carrière. Donc, encore un autre gros problème qui s'est présenté en cours. En 1990, on décide de régler ça à l'amiable. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui est légal entre Sandra Locke et Clint Eastwood est fondamentalement réglé. j'ai vu quelque part que ce cas-là, en fait, le deuxième cas par rapport à la conspiration, dans le triangle Sandra Locke, Clint Eastwood, Warner Brothers, est un cas qui a fait jurisprudence et qui est vraiment utilisé dans des manuels sur le droit moderne concernant les contrats et tout ça. Surtout pour illustrer ce qu'on appelle les concepts de bonne foi. Voilà, je peux pas nécessairement vous dire plus là-dessus. Suite à toutes ces déboires légaux-là, Locke est diagnostiqué d'un cancer du sein en 1990. Ça, c'est encore un truc assez compliqué, là, après avoir brassé autant d'émotions dures et d'avoir été abusé et même manipulé par des personnes, par une personne qu'elle croyait qu'elle aimait, et ainsi de suite. Bon, elle se retrouve à être diagnostiquée avec cette maladie-là extrêmement mortelle. Elle subit une double mastectomie, part en chimiothérapie, survivra pour les prochains 28 ans. Enfin, elle est morte en 2018. Cette histoire-là du Eastwood Rule a des répercussions, comme je vous dis, chez tous les membres. En fait, je pense que Philip Kaufman ne s'en est pas nécessairement remis de cette trahison-là. Philip Kaufman, à mon avis, a une très belle carrière, mais une carrière un peu timide au cinéma. Je ne sais pas si ça a un impact, je ne sais pas si ça l'a rendu frileux de participer avec des A-list actors. Peut-être que de voir comment est-ce que t'es capable de te faire manipuler par une personne comme Clint Eastwood l'a manipulé, ça lui a dit, peut-être que je vais me calmer dans mes projets d'ambition. Qui sait? Ça n'a rien changé pour Clint Eastwood. En fait, comme on le sait, les hommes qui abusent s'en sortent toujours. Malgré que Eastwood, dans ses propos publics, il devient de plus en plus un vieux réac, mais ça lui appartient, c'est pas un problème. Et Sandra Locke, on n'en entend pas du tout parler. Ce qui est très triste. Et ce qui est un peu le point par rapport à ce petit épisode-là, c'est comme, c'est bien plate qu'il y a quelqu'un qui disparaît malgré qu'elle s'est battue autant et qu'elle a été abusée à ce point-là. Même les répercussions temporelles, en fait, on pense jusqu'à notre époque. L'exemple le plus saillant dans quoi est-ce que la règle Eastwood, malgré qu'elle est respectée, elle peut encore avoir des impacts significatifs sur l'industrie cinématographique. En 2017, pensez à Solo. Tu vois, c'est drôle parce que quand Solo est sorti, quand ils ont annoncé Solo, j'étais le petit garçon, le plus enthousiasmé dans tout le village. Parce que il était co-réalisé par Phil Lord et Chris Miller. Puis Phil Lord et Chris Miller, je les adore, ils sont extraordinaires. Et la possibilité d'avoir un film de Han Solo réalisé par ces deux êtres-là, ces deux artistes-là, avec leur imaginaire, mais autant l'imaginaire de Cloudy with a Chance of Meatballs que l'imaginaire de 21 Jump Street, je voulais absolument voir ça. Malheureusement, il y a eu des conflits à l'interne. Ça a fait en sorte qu'ils sont partis et on aurait pu engager le scénariste du film pour le faire. Ça aurait pu être Lawrence Kasdan qui le réalise. Mais la Eastwood Rules faisait en sorte, malgré que Kasdan n'est pas l'acteur, mais il est quand même quelqu'un dans la production qui aurait pu prendre la place parce qu'il était dans la production depuis le début, depuis la scénarisation. Et Lawrence Kasdan est quand même un réalisateur extraordinaire. Ben non, il ne pouvait pas. Le Eastwood Rule a fait en sorte que Disney a eu à aller chercher... c'est qui l'a raison encore? Ron Howard. C'est Ron Howard qui a été cherché. Ron Howard qui n'était pas du tout impliqué dans la production. Donc, pour respecter la Eastwood Rule, ils ne pouvaient pas donner le siège à Lawrence Kasdan. Ils l'ont donné à Ron Howard. Ironiquement, 10 ans avant ça, le Directors Guild of America, le président... À l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, Michael Apted, ce réalisateur qui a fait quelques films avec Julia Roberts, si je me rappelle bien, en 2006, a couronné, décoré Clint Eastwood de la plus importante honneur que sa guilde peut offrir, en fait le Directors Guild of America, Lifetime Achievement Award. Et donc, malgré que Clint Eastwood a fait beaucoup de marde dans le Directors Guild, presque 40 ans plus tard, même 30 ans plus tard, de 76 à 2006, il se voit donner une médaille et un des plus grands honneurs que le plus grand honneur que le Directors Guild of America peut donner à un réalisateur. Comme quoi est-ce que encore, l'histoire parfois donne aux personnes qui ne le méritent pas nécessairement. Excusez, j'ai là à la fin un peu laissé échapper mon... Bon, j'essayais vraiment, honnêtement, j'essayais de conserver une objectivité tout le long et j'essayais d'être le plus... de masser le plus autour et dire tout est correct, ça va, pis tout. Mais bon, à la fin, je l'ai laissé tomber, je suis désolé. Ouais, moi, ça passe pas pour moi. Je trouve ça très, très désolant que des gens peuvent se comporter comme ça. Que voulez-vous? J'espère que vous avez aimé l'émission. C'est tout pour aujourd'hui. En fait, je voulais parler du Eastwood Rule. Je voulais vous donner ce pépin d'informations que vous pouvez utiliser dans des parties pour rire. T'sais. Hey, savais-tu qu'il y avait une règle qui s'appelle la règle Eastwood? Puis là, tout le monde peut essayer de deviner c'est quoi. Je dis, oh non, c'est une affaire qui date de 1976 avec The Outlaw, Josie Wales. Et pendant que je suis en train de faire cette conclusion-là, je me rends compte que c'est peut-être les fondements même de ce podcast, cette idée-là de ramasser des histoires, vous les raconter pour que vous puissiez les raconter à quelqu'un d'autre. Ça serait vraiment le fun de juste faire un podcast de comme, hey, ça c'est le genre de choses cool que tu peux dire au monde. Puis bon, si le 7e antiquaire est votre rendez-vous d'affaires cool que vous pouvez partager aux autres, ben, moi je suis content. Je suis content de pouvoir offrir ça. Passez une excellente semaine, comme je disais, la semaine prochaine, mais ça me surprend. Ah non, en fait, c'est pas vrai, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais être à l'UQAM. Je suis actuellement à l'UQAM, je vous mentirai pas. La semaine prochaine, je donne un cours en bande dessinée. Je donne une histoire de la bande dessinée, super-héroïque, dans le cours de la bande dessinée au département d'études littéraires. C'est ouvert à tous. Venez faire un tour. La proposition que je me suis fait, en fait, c'est Gabriel qui donne le cours, mais il m'a donné la séance sur le super-héros en disant « Amuse-toi ». Et moi, les contraintes que je me suis données, c'est « Je vais donner l'histoire du super-héros à la manière de Ken Burns ». Donc, Ken Burns, le célèbre documentariste qui a fait jazz, baseball et plus récemment country music, a un style visuel et un style narratif très à lui. Et je vais le copier, je vais l'émuler, je vais l'hommager dans ce cours de bande dessinée que vous pouvez venir voir. Je pense que c'est à 6h, c'est à l'UQAM. Regardez, trouvez le cours, trouvez la salle de cours, venez me voir, ça va être niaiseux. Mais ça va être intéressant. Donc la semaine prochaine, je pourrai pas faire l'émission, c'est ça que je voulais dire. Je ne pourrai pas faire The Kelly Gang, mais je vais peut-être le faire la semaine d'après. On va voir. Sinon, ça va être la semaine d'après. Sinon, ça va être la semaine d'après. D'ici ce temps-là, je vous aime énormément. Passez une excellente semaine. 2 semaines. 3 semaines. Passez un bon mois. Au revoir. I put a spell on you.
Votre attention à tous. Aussitôt que le sas sera verrouillé, silence. Jade et Yula, si quelque chose cloche, prévenez-moi par télépathie.
I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore!
Comme ça, Money, tu penses que ton stuff, c'est la grosse affaire?
Laisse-moi te dire une chose, qu'avec ce stuff-là, les petits deals sont mieux de prendre leur trou.
C'est cet inconscient-là qui est le plus dangereux.
Nice shooting, sir. What's your name?
Murphy.
Je suis un porc! Je suis inordure! Ah! Je suis pourri! Je suis lépreux! Colère! Attendez-moi! Ne partez pas!
I'll put a spell on you!